Je vous propose ce matin d'avoir une approche spirituelle sur les addictions. Et on va en parler d'une façon générale. Alors, si tu veux, tu peux... Ah pardon, non, là, ça c'est moi qui peux le faire quand même. Voilà, est-ce que ça va marcher? Oui, très bien. Alors, je vous propose de lire un passage dans Genèse au verset 3 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Connaissant le bien et le mal, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant fait des feuilles, cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ?» Alors, on va essayer de réfléchir ensemble à ce qu'était cette période qui était le jardin d'Éden. Et excusez-moi, mais je me dis que ça devait être le bonheur total. Ça devait être le bonheur total. Et il y a Adam qui est complètement amoureux d'Ève. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, d'autres dames, tout ça. Il y avait Ève et il était avec elle tout le temps, matin, midi, soir. Et en plus, ils n'avaient pas à se focaliser sur comment est-ce qu'on va remplir le frigo et où est-ce qu'on va manger et puis est-ce qu'il y a des problèmes avec les impôts, le fisc, l'URSSAF. Non, rien. Ils vivaient une vie de plénitude. Ils avaient une relation avec Dieu, ils lui parlaient et ils étaient tellement heureux. On voit comment Adam accueille Ève, il dit « mais merci pour ce cadeau ». Alors, je le dis aux hommes, là, est-ce que vous avez dit récemment à votre femme « Merci pour le cadeau que tu es pour moi ». Alors, je vous encourage, hein, pas aujourd'hui, hein, mais ce soir, dites-le à vos femmes. Voilà. Et donc, il est là et puis il dit « Merci pour le cadeau que tu m'as fait ». Et ils sont tous les deux heureux et ils vivent au milieu d'un endroit où la nourriture n'est pas un problème. Où il y a une facilité totale et en plus, ils ont quelque chose d'exceptionnel. Il y a l'arbre de vie. Et ils mangent de l'arbre de vie. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils sont bloqués à 25 ans. C'est facile. Hein, vous ne rêveriez pas de ça. Enfin, moi, j'y rêve. Hein. Vous êtes au meilleur de votre forme. Il n'y a aucune maladie. Votre corps est toujours parfait. Vous avez toujours les carreaux de chocolat. Bon, chez moi, ils ont un peu fondu, vous voyez. Mais vous voyez, vous êtes toujours au top de top. Et tous les matins, Ève vous dit, oh, « Qu'est-ce que tu es mignon, mon chéri. » Moi, ça fait longtemps qu'on m'a plus dit ça. Et bien, il devait vivre ça. Il devait vivre ça. Et puis, ils sont dans cette phase de bonheur absolu. Voilà, ils sont dans cette phase de bonheur absolu et ils ne s'en rendent même pas compte. Ils ne s'en rendent même pas compte. Sauf que, il y a dans cet lieu particulier, il y a un arbre de vie. Un arbre qui donne la vie éternelle quand on en mange. Est-ce que c'est les feuilles? Est-ce que c'est les racines? On ne sait pas. Mais en tout cas, en mangeant régulièrement cet arbre de vie, il restait éternellement jeune. Et ça, ça intéresse beaucoup le monde d'aujourd'hui aussi. C'est que cet arbre de vie, on revient à cela, cet arbre de vie est un arbre qui nous amène à avoir la vie éternelle, ce qui nous permettrait de pouvoir rester éternellement jeune et de ne jamais être amené à mourir. C'est le rêve des hommes d'aujourd'hui. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Jeff Bezos, mais lui, il vous connaît. Hein. Et Jeff Bezos, il est très très riche et il a un espèce de, il a un espèce de en endroit spécial à Palo Alto où il travaille avec les meilleurs chercheurs mondiaux sur les cellules souches. Et son idée fixe, c'est le transhumanisme, c'est de fabriquer une société avec des humains qui vivront très 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 longtemps. Un autre qui s'appelle Elon Musk aussi pense que lui aussi on va trouver quelque chose qui va faire de nous quelqu'un qui va vivre très très longtemps. Et ça c'est pas nouveau, ça fait depuis environ une quarantaine d'années que nous savons que notre corps est le siège d'une horloge biologique. En fait, il y a environ une quarantaine, cinquantaine d'années, on a commencé à faire les premières greffes de reins. Alors on a greffé les reins d'un monsieur de 70 ans qui donnait son organe et puis on l'a greffé dans le corps d'un monsieur de 30 ans qui n'avait plus de reins ou des reins non fonctionnels. Et puis on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le monsieur est devenu vieux lui-même, mais s'il n'avait pas eu de maladie intercurrente, le rein était encore en bon état. On aurait pu à ce moment-là reprendre le rein du monsieur et on aurait pu le regreffer s'il avait été d'accord et on aurait pu le réenvoyer dans le corps d'un autre homme jeune et il aurait continué. Vous savez, les humains, c'est l'inverse des voitures. Les voitures, c'est les pièces qui vieillissent. Chez les humains, c'est pas les pièces, c'est le tic-tac de l'horloge biologique qui nous fait vieillir. C'est quelque part en nous, on pense que c'est dans le cerveau, mais on n'en est pas sûr. Il y a un tic-tac, tic-tac, qui fait que notre corps vieillit, que nos cellules se défendent moins contre les infections, que notre peau devient de plus en plus fine, que nos artères se bouchent. Et que nous commençons à devenir fragiles à toute une série de maladies qui un jour auront raison de nous. Il y a donc un tic-tac dans notre corps. Ça, c'est très embêtant. Alors évidemment, les hommes se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit, mais non, mais nous, on va travailler, on va trouver le moyen de vivre éternellement, ou en tout cas de vivre très, très, très vieux. Et ils rêvent de connaître cette horloge biologique. Vous imaginez le laboratoire qui découvrirait un vrai médicament qui permettrait de faire ce que les mauvais garagistes savent faire. Vous savez, ils vous branchent un truc sur votre voiture et ils vous remettent le compteur à zéro. Ah mais on rêverait de ça, hein ? Tu irais chez le garagiste spirituel, enfin le garagiste Neuralink, et tu lui dirais, écoute, j'ai 63 ans, mais règle-moi sur 22. Hey, ça serait trop bien. Et puis bon, bien sûr, ça sera payant, hein. Mais oui, ça sera pas réservé, ça sera pas pour tout le monde. Et on rêve de ça. Et on voudrait retrouver l'arbre de vie, celui qui était là-bas, dans le jardin créé à l'origine. Et pour cela, je peux vous dire que des milliards sont dépensés par le monde d'aujourd'hui pour retrouver le contrôle. Et je pense que l'IA est fortement sollicitée. Et je pense qu'avec le développement des connaissances qui est en train d'avancer à vitesse exponentielle, c'est-à-dire une vitesse extrêmement rapide, je pense qu'effectivement, ils vont progresser dans ce domaine. Et il va y avoir des choses exceptionnelles qui vont arriver dans le futur avec des progressions d'espérance de vie. Pour qui ? Ça reste à voir. Alors on va continuer. Et donc dans ce paradis, nous avons Adam et Ève qui vivent le vrai bonheur. Et ils sont heureux, mais ça va pas durer. Parce qu'ils rencontrent le serpent, le reptile ancien, qui est très intelligent. Je sais pas si vous avez remarqué, il est très très intelligent et il commence par remettre en question la parole de Dieu. Il va pas frontal. Il va pas lui dire, ouais, mais c'est nul, faudrait que tu manges de l'arbre de vie, vas-y, moi j'en ai mangé, c'est très bon. Non. Il lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit? La première chose qu'on va nous dire et que nous disent les réseaux sociaux, est-ce que Dieu a vraiment dit dans la parole cela? Est-ce qu'il est vraiment interdit de regarder YouTube? Est-ce qu'il est vraiment interdit de prendre des drogues, de fumer des cigarettes et de regarder des vidéos pornographiques? Mais tout le monde fait ça. C'est ma liberté principale. Est-ce que Dieu l'a vraiment dit? Est-ce que ton pasteur ne serait pas un peu pharisien quand même, hein? Tu vois? Il est peut-être, et puis les anciens aussi, du coup, tu vois? Non. Faut vivre avec ton temps. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et puis après, La question qui n'est pas posée par le serpent, mais qui est en dessous. Tu es vraiment libre, mais en même temps, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qu'on t'a interdit? Le goût de l'interdit. La deuxième chose que le serpent dit, attends, il y a un truc d'interdit, mais c'est trop bien ça. Ça doit être super bon. Si c'est interdit, c'est que justement, il y a un truc derrière l'interdit. Faut que tu goûtes. Tu sais, un jour, il y a un de mes patients qui m'a dit, ah, mais docteur, vous parlez bien de la cocaïne. Vous en avez déjà pris? J'ai dit non. Et là, il me regarde, il fait, ah bon, vous pouvez pas comprendre. Je lui dis oui, je peux pas comprendre parce que mes yeux ne se sont pas ouverts. Et qu'est-ce que je suis content que Dieu m'ait protégé de ne pas avoir les yeux ouverts sur ce produit qui explose le réservoir de dopamine dans votre cerveau. Alors, il nous dit, le serpent, est-ce que le bonheur ne serait-il pas une liberté totale? En fait, il est en train de mentir. De toute façon, c'est son grand job, le serpent. Hein. Et il lui dit, finalement, tu es heureuse, Ève? Mais est-ce que tu es vraiment heureuse? Ben, elle dit, oui, je suis heureuse. Non, attends, je sais pas la question que je te pose. Est-ce que tu as le droit de tout faire? C'est ce que les enfants nous disent. Papa, je ne suis pas heureux parce que tu ne me laisses pas tout faire. Est-ce que le bonheur est de devoir tout faire ou de pouvoir tout faire? Je ne le crois pas. Mais c'est ce que l'ennemi, c'est ce que le serpent lui dit à Ève. Malheureusement, elle va tomber dans l'affaire. Alors bon, il se trouve que c'est Ève. Oui, je veux pas d'histoire avec les dames ce matin. Et il faut bien reconnaître que Adam, il s'est vraiment tué et il aurait mieux fait de parler. Mais bon, c'est arrivé. Et d'ailleurs, elle va dire quelque chose d'incroyable, elle va regarder le fruit et elle va dire, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Moi, je pense qu'elle a dû en prendre une goutte de ce truc et elle a dû dire, oh, waouh, mais c'est trop bien ça. Effectivement, le serpent a raison. Waouh, c'est trop, trop bien. Parfois, moi, je l'appelle l'arbre de la connaissance du bien et de la cocaïne. Parce que ça doit être tellement bien. Comme, vous savez, mes patients, ils m'en parlent de la cocaïne et je me dis, waouh, ça doit être ça. Hein. Ça doit être l'ouverture des yeux. Une explosion de dopamine dans ton circuit du plaisir. Et après, on voit le dégât. Après, on voit leur vie. On voit leur quotidien. Le message du monde, c'est de dire, mettre le moi au-dessus de Dieu. Oui, finalement, Dieu a dit que je ne dois pas toucher ce fruit, mais finalement, de quelle autorité a-t-il donc à me dire ces choses-là? Et puis, c'est quoi cette frustration de devoir suivre des règles fixées par Dieu? Moi, j'ai envie de tout découvrir, de tout goûter. Et puis, ce fruit, il a l'air bien, il a l'air goûteux, il a l'air d'ouvrir l'intelligence. D'ailleurs, en plus, c'est peut-être pas impossible que justement, il veut se le garder pour lui. Hein? Moi aussi, je voudrais être comme lui. D'ailleurs, les hommes d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être comme lui, mais pas au travers de la parole de Dieu. Ils veulent l'être par leur savoir, par ChatGPT et par leur connaissance qui est en train d'exploser. L'homme décide donc seul de ce qui est bon pour lui, ce qui est bon et mauvais, et finalement ce que dit l'homme, mon plaisir, mon bonheur, et je crois qu'il y a une grande différence entre le plaisir et le bonheur, mon réservoir de dopamine dans mon cerveau, c'est ma seule boussole. Ce que je veux, c'est avoir du plaisir. C'est ça qui m'intéresse dans ma vie. Je remplis mon réservoir de plaisir dans ma vie. C'est ça l'objectif de ma vie. C'est ce qui dirige ma façon de penser. C'est ce que le monde nous dit. Et c'est donc ce que nous voyons ici. Dieu a-t-il vraiment dit, qui a osé réduire votre vie? Mon plaisir, mon bonheur, c'est ma boussole. Posez-vous la question de qui est-ce qui vous parle quand vous regardez des vidéos sur votre écran? Posez-vous la question si c'est Dieu qui vous parle ou si c'est le bruit de fond du monde. Et qui c'est qui tient finalement les ficelles du bruit de fond? Qui c'est qui envoie ce message? Et qu'est-ce qu'il vous dit à vous, vous, chrétiens, rachetés, graciés au travers du sacrifice de Jésus. Alors, ensuite, on va voir qu'il y a une succession de mensonges. Ah oui, je vous ai expliqué. Hein. Il est même dit qu'il s'appelle le père du mensonge. C'est vraiment un professionnel. Hein. Première chose, il leur dit, vous n'allez pas mourir. Au contraire, ils vont mourir. Ils ne le savent pas encore. mais ils vont mourir. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Souvent, je dis à mes patients, vous savez, si vous continuez dans le produit, dans ce que vous faites, vous allez mourir bientôt. On va tous mourir, mais vous allez mourir plus vite que prévu. Oui, oui, mais je suis pas pressé, me disent-ils parfois. La deuxième chose qu'il dit, et vous savez, souvent l'ennemi mélange un peu de vrai et un peu de faux, il dit, vos yeux s'ouvriront. Et c'est vrai, les yeux s'ouvrent. Et je peux vous dire que quand on découvre le péché, et quand on découvre certaines satisfactions du plaisir et du péché, eh bien, oh, on se dit, ah bon, ça peut exister? Ah non, mais ça n'a rien à voir avec... Oh. Sauf qu'une fois que tes yeux sont ouverts, tu gardes le souvenir de ce que tu as vécu. Moi, j'ai des patients dans la clinique où je travaille et qui me disent, ah, docteur, si vous saviez, la première fois que j'ai pris de l'héroïne, et ils vous racontent des histoires comme dans Avatar 1, vous savez, ils sont sur des êtres incroyables et ils volent dans des ciels bleus et ils sentent le vent qui souffle dans leurs oreilles et ils commandent le vol des oiseaux sur lesquels ils sont assis, c'est magnifique. Sauf que maintenant, ça fait longtemps que je ne vole plus et je suis assis sur des vautours qui se retournent pour me manger. Mais au début, c'est fantastique. Au début, ils ont l'impression de nager dans le bonheur. Ils ont les yeux qui s'ouvrent. Et je leur dis, ben, pourvu que moi, j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. J'ai pas envie d'avoir ces yeux ouverts. Parce que ça va ruiner ma façon de vivre la vraie vie. Et d'ailleurs, quand vous avez les yeux ouverts sur ces plaisirs énormes, vous n'avez plus de plaisir dans la vie de tous les jours. Vous savez, un des signes de guérison... Je n'aime pas trop dire le mot guérison. Mais en addictologie, on parle plutôt de rémission. Eh bien, un des signes de rémission, c'est quelqu'un qui vient vous dire, « Ah ben, je suis depuis 3 mois en cure. Vous savez quoi, docteur? Hier, j'ai écouté un oiseau qui chantait le printemps. » Je me dis, « Ah, ça, c'est bon signe. » Il est capable d'avoir de nouveau un petit signal positif en entendant simplement le chant du merle, le soir qui signale sa position. Et je me dis, « Tiens, Il redevient dans le monde des gens qui ont du plaisir dans des choses normales. Et puis alors, bien sûr, vous serez comme des dieux. C'est vrai et c'est faux. C'est faux parce que nous sommes loin d'être des dieux. Regardez le monde déchu dans lequel nous vivons. Et pourtant, regardez les compétences et les connaissances que nous avons. Et donc, nous sommes à la veille de voir des choses incroyables se produire. Et en fait, si nous devions regarder aujourd'hui ce que nous avons déjà, c'est complètement incroyable. Quand moi je suis né en 1962, si j'avais pu, par un coup prophétique, prédire que pour 100 euros, on pouvait acheter un téléphone portable qui ferait des photos, des vidéos, qui enregistre, qui vous donne la météo, qui vous dit où vous devez aller et qui vous parle en français, en anglais et qui traduit dans plein de langues, les gens auraient dit « Ouh, Daniel, t'as un vrai problème ». C'est incroyable ce qui s'est passé. Et nous sommes devant une révolution incroyable en 60 ans. Et ce n'est que le début parce que ça s'accélère. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que nous sommes à la veille d'une révolution. Vous serez comme des dieux, c'est un peu vrai, et c'est aussi profondément faux. Nous sommes complètement humains et nous sommes liés par notre péché, notre nature pécheresse, à être éternellement séparés de Dieu. Et tous ceux qui l'oublient devront un jour affronter le fait d'être séparés définitivement de Dieu. C'est la dernière des choses que je me souhaite à moi. Et c'est la dernière chose que je vous souhaite à vous. C'est d'être privé éternellement de la présence de Dieu. Quand on lit dans la parole de Dieu ce que veut dire cet endroit où nous serons privés de la présence de Dieu, c'est pas un endroit où j'ai envie d'être, même pas une seule minute. Et enfin, le dernier mensonge, Dieu nous interdirait une action pour nous empêcher d'être comme lui. Dieu nous interdirait une action pour nous empêcher d'être comme lui. Non, il veut que nous soyons comme lui, mais il veut que nous devenions comme lui au travers du Fils, pas en touchant au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je voudrais vous parler d'un livre que je ne vous recommande pas d'acheter. Ça s'appelle Homo Deus et c'est écrit par un monsieur qui s'appelle Yuval Hariri, qui est un professeur émérite dans une très grande faculté de Tel Aviv. Alors, il n'est pas croyant, il est israélien, il n'est pas croyant, il n'aime pas les rabbins, ni les curés, ni les imams. D'ailleurs, il en parle assez négativement dans son livre, mais Homo Deus, c'est la publicité ultime de l'homme-dieu, de l'homme futur. Et cet homme a une vision du futur. Et regardez ce qu'il dit. La Bible dit que le serpent n'est pas notre ancêtre. Au contraire, que le serpent nous inciterait à nous rebeller contre notre Père Céleste. Mais en fait, quand les humains modernes ont découvert qu'ils descendaient effectivement des reptiles, entre guillemets les serpents, ils se sont rebellés contre Dieu et ont cessé de l'écouter et même de croire en son existence. C'est un prophète cet homme, mais de l'autre bord. Il est en train de dire que les hommes se sont rebellés contre Dieu, c'est vrai. Ils ont dit, mais nous on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de cette morale, on n'a pas besoin de savoir ce qui est bon et ce qui est juste, on n'a pas besoin que tu nous dises qu'il y a un arbre qu'il ne faut pas qu'on mange. Nous, on est des hommes et on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Et c'est nous qui allons écrire ce que nous allons vivre et faire. Et tu vas voir, on va te montrer, tiens, on va se faire un nom pour te montrer que nous sommes comme toi. Nous serons un jour comme toi. Ça, c'est l'objectif. La révolution humaniste que propose Yuval Hariri, c'est de devenir des hommes-dieux. Alors regardez, ça continue. Qu'importe si cela est bien ou mal, mais il semble bien que le deuxième grand projet du XXIe siècle sera de promouvoir le bonheur. Ah, ça serait trop bien. Quand j'écoute la radio, en ce moment, j'ai pas tellement l'intention que ce soit vraiment au programme. Mais en tout cas, les drogues ne sont qu'un début. Dans les laboratoires de recherche, les experts travaillent déjà sur des manières plus sophistiquées de manipuler la biochimie humaine en envoyant des stimuli directs à des points précis du cerveau et même par le génie génétique en manipulant la trame même du corps. Qu'importe la méthode pour arriver au bonheur par une manipulation génétique ne sera pas facile, car cela exige de changer les structures fondamentales du vivant. Mais il est vrai que ce n'a pas été non plus facile de triompher de la famine, des épidémies et de la guerre. En fait, ce qu'il dit, c'est que bientôt, nous aurons le bonheur absolu. Non pas sur ordonnance, mais absolu. On sera tous heureux. On aura la connaissance infini, on aura le bonheur infini et on aura la vie infinie. C'est ce qu'ils nous promettent. Tout infini. Alors parfois je me dis, mais est-ce qu'ils ont raison? Qui va nous donner vraiment ce bonheur infini? Et qui aura droit à ce bonheur infini? Alors là, je vous ai mis un film qui s'appelle Ticket pour le paradis, avec des acteurs que vous connaissez bien. Et ça m'intéresse beaucoup, parce que le paradis du monde, ok, d'accord, mais finalement, il est réservé à qui ce paradis, où on aurait la connaissance infinie, le bonheur infini, la vie infinie? Le ticket semble pas accessible à tout le monde. Il va avoir un prix élevé. Il sera réservé une élite à une élite. Et donc, si dans le film, il y a le ticket pour le paradis, eh bien, on se rend compte que le ticket, il a un prix, et je me demande à qui on le paye et combien ça coûte. Je peux vous dire une chose, c'est que le prix du ticket pour le paradis du monde coûte très cher. Alors, ils ont un rêve. Ils ont un rêve, et ils nous le vendent. Ils nous le vendent, et là, vous avez ce mensonge planétaire, vous connaissez, alors il faut être un peu vieux pour connaître ce monsieur, c'était l'auteur de cette chanson « Nous irons tous au paradis ». Vous connaissez ça? Comment il s'appelait le gars qui chantait ça? Voilà. C'était un... Tout le monde connaissait cette chanson « Nous irons tous au paradis ». Je ne sais pas chanter, je ne vais pas essayer. Mais les gens ont chanté ça, les gens ont aimé cette histoire. Mais si vous lisez les paroles jusqu'au bout, regardez. Laisse un peu de vague à ton âme, n'aie pas peur de la couleur et flamme de l'enfer. Tiens. C'est pas tout à fait le paradis que moi je voulais aller. Mais on ira tous. En fait, si vous lisez bien toutes les paroles de la chanson de cet homme, il nous parle pas du paradis dont Jésus nous parle, il nous parle de l'autre. Mais il nous dit qu'on ira tous. Et vous avez un mensonge planétaire. Et c'est ce que eux nous disent aussi. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. On ira tous au paradis. Alors, je continue avec leur futur. Hein. Leur futur, c'est l'homme-dieu. Et vous pouvez avoir, là où je vous ai mis un autre qui travaille ardemment et qui est un transhumaniste, et il s'appelle Monsieur Elon Musk, qui lui travaille sur des connexions neurales entre le cerveau humain et les ordinateurs. Et lui aussi, c'est un fervent défenseur et un ami de Yuval Hariri qui a écrit le livre. Et puis vous avez des films qui font la publicité de tout ce message. C'est par exemple le film Lucie. Qui ont vu Lucie, hein, avec cette femme qui découvre des pouvoirs et une compétence exceptionnelle. C'est vraiment une publicité aussi pour ça. Ou un autre film qui s'appelle Interstellar, où on voit la connaissance extrême de l'homme et la capacité d'affronter des multivers. Ça, c'est le futur. C'est le futur que eux se voient. C'est le bonheur infini, la vie infinie et la connaissance infinie. Alors, la connaissance infinie, en ce moment, si demain on arrive à se brancher une prise USB dans le cerveau, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Pour le reste, on a encore du boulot à faire. Mais on n'est pas loin. Alors, ça c'est le futur que eux nous promettent. Mais que dit la parole? Alors, la parole de Dieu dit, le monde promet du plaisir, mais qui nous donne du bonheur? Qui nous donne du bonheur? Il y a une grande différence. Le plaisir, c'est un shoot de dopamine dans ton circuit du plaisir. Le bonheur, c'est le contentement durable de ton âme. Et on voit ici la parole de Dieu qui dit, moi je donne ça, moi Dieu je le donne, à ceux qui me craignent. Mes amis, la crainte de l'Éternel. Ça ne veut pas dire qu'on ne devons être terrorisés, mais c'est de dire tous les jours, je sais que Dieu me voit, je sais que Dieu m'aime, mais je sais qu'il voit tout ce que je fais, y compris dans le noir, quand je ne suis qu'éclairé que par mon écran. Avant d'aller me coucher. Dieu me voit du matin et du soir. Il sait quand je parle à ma voisine, quand je parle à ma collègue de travail et aux blagues bizarres que je fais avec elle. Il me voit. Je crains Dieu. Et Dieu a dit à ces hommes-là, à ces femmes-là, je vais leur donner le bonheur. Il y a des hommes et des femmes qui sont immensément riches, qui voudraient un tout petit peu de bonheur. Il y a des fois où je vis dans ma petite chambre de garde à l'hôpital où je travaille, et je dis parfois, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes de bonheur? Je vis une vie simple ici, et pourtant tu me donnes d'être heureux dans ce que je fais, et de me rassasier de ce que tu me donnes. Je me contente de ce que j'ai, et je suis tellement bien, et tu me donnes même du superflu. La différence entre le plaisir et le bonheur est fondamentale. Le monde nous propose du bling-bling, comme un certain président aimait beaucoup le dire. Et il nous disait... un président en France qui disait « Si à 40 ans tu n'as pas une Rolex à la main droite, tu as raté ta vie. Qu'est-ce que je suis content d'avoir raté la mienne ?» Et en fait, il nous dit « Ça, c'est le bling-bling. » Et en fait, Dieu nous dit « Non, moi je te donne autre chose que le plaisir. Moi, ce que je te donne, c'est le bonheur. Et ça, personne ne peut te l'acheter. » Alors, je vous ai déjà montré cette image. Leur fin sera, et ce sera aussi leur futur, sera la perdition. Ça, c'est ce que la Bible dit d'eux. C'est terrible ce que je dis. Mais la Bible dit, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur circuit du plaisir ou leur ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ce que nous voyons dans la vie de tous les jours. Des hommes et des femmes qui sont très fiers de ce qu'ils font et qui se battent contre le Dieu qui s'est révélé dans la parole de Dieu, qui ne veulent pas de lui, qui se sont rebellés contre lui et qui pensent qu'ils vont gagner la bataille. Ils pensent qu'ils vont gagner la bataille. Et nous, nous sommes des gens qui les empêchons d'avancer vite vers l'objectif qu'ils se sont formés. Mais leur fin, la parole de Dieu est claire, c'est la perdition. Alors j'aime bien ce dessin de Oderset. Bah, ce n'est qu'un petit verre. Parlons maintenant des chrétiens. Oui, les chrétiens sont sous le feu de l'ennemi aussi. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'ennemi ne peut pas nous voler notre salut, mais il peut nous voler notre efficacité à son service. Et il va nous mettre des petits vers accrochés à des hameçons. Il va nous dire, mais non, c'est pas grand-chose, Daniel, tout le monde le fait. D'ailleurs, tu regardes des vidéos sur YouTube qui te disent que puisque tout le monde le fait, toi aussi tu peux le faire. Et finalement... si je regarde 7 heures vidéo sur YouTube qui me disent que je peux le faire, et si je ne passe que 7 minutes à lire la parole de Dieu qui me dit Regarde ce que Dieu a dit dans le domaine, par exemple, de l'engagement du mariage. Qu'est-ce qui va rester dans mon cerveau? Qu'est-ce que je vais croire à la fin de la journée? Et peut-être que je vais faire comme ce poisson qui va me dire, oh, ce n'est qu'un petit verre. Il a l'air très goûtu, ce petit verre. Il a l'air juteux et de très bon goût. Mais j'oublie qu'il y a un hameçon dedans. Un hameçon qui va m'accrocher. Alors, on a déjà vu cette image. La raison devient non raisonnable. Et ça, c'est une des caractéristiques de l'addiction. C'est que vous ne pouvez pas raisonner les addicts par la parole. Parce que vous, vous travaillez dans le raisonnement. Mais eux, ils sont dans l'émotion. Eux, ils expérimentent de la dopamine dans leur cerveau, alors que vous, vous parlez de choses raisonnables, de choses logiques. Tu devrais arrêter de boire de l'alcool, tu devrais arrêter de prendre de la drogue, tu devrais arrêter d'être sur les réseaux sociaux, tu devrais arrêter de consommer de la pornographie sur Internet. Ça te fait du mal. Ça t'éloigne de la possibilité de rencontrer un jour une femme ou un homme. Ça te fait du mal. Et le Seigneur a dit que ces choses nous font du mal, parce que le péché nous détruit intérieurement. Nous éloigne de Dieu, nous sépare de lui. Mais moi, je suis dans l'émotionnel, moi, je remplis mon réservoir. Et là, c'est comme cette souris, j'ai les yeux complètement vrillés. Et je dis, non, j'ai besoin de continuer, j'ai besoin d'en prendre. Une des grandes vérités, c'est quand on est en face de quelqu'un qui est addict, rien ne sert de le tirer comme le fait la souris là. Il faut lui montrer que vous l'aimez. Si vous n'êtes pas dans l'amour et dans la compréhension, si vous passez votre journée à lui dire « je t'avais prévenu, je t'ai caché ton téléphone, je t'ai enlevé ta bouteille, je t'ai jeté la drogue dans les poubelles », c'est pas ça qui va guérir un addict. Ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose à dire à cet homme ou cette femme qui est dans l'addiction, c'est parce qu'il va savoir que vous l'aimez, malgré qu'il est un addict, malgré qu'il est coincé dans ce péché, puisqu'il a perdu sa liberté de s'en abstenir. Parce que vous allez comprendre, il va comprendre que vous l'aimez malgré tout. Parce qu'il va comprendre que vous l'aimez, non pas parce qu'il est un addict, mais vous l'aimez parce qu'il est porteur d'une partie de l'image que Dieu a mis en lui. Et ça, il va le sentir. Et le moment venu, vous priez pour lui, le moment venu, vous allez lui dire, je veux t'aider, je suis à tes côtés, je sais que tu es dans un piège, je sais que Satan t'a mis des chaînes, on a vu les images de chaînes. Satan t'a mis des chaînes, je les vois moi, je les vois toi, tu les vois pas parce que tu as les yeux vrillés. Mais je suis prêt à venir t'aider. Peut-être viens avec des frères, on prie dans un groupe de redevabilité. Il y a une façon d'en sortir. Oui, il y a une façon d'en sortir. Alors, malheureusement, beaucoup de gens, et moi je suis le témoin de ces gens-là, dans mon quotidien, je suis le témoin de dizaines, de centaines, de milliers de personnes qui ont abandonné. Vous savez, c'est comme des gens qui ont emprunté à la banque du plaisir. Et ils ont dit, banque, prêtez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Je veux de l'argent, je veux du plaisir. Alors ils empruntent du plaisir, mais ils oublient que c'est une banque qui prête à un taux d'intérêt usuraire. Ils empruntent. Et au début, comme toutes les mauvaises banques, la banque prête facilement. Chaque fois que tu viens, elle te dit, je te prête, je te donne, oui, il n'y a pas de problème, tu reviens, ouais. Et au début, vous avez l'impression d'avoir trouvé la fortune. Puis un beau jour, le patron de la banque vous dit, hey gars, faudrait quand même que tu rembourses un peu. Mais ici, on rembourse pas en francs suisses, on rembourse pas en euros. On rembourse en déplaisir, on rembourse en souffrance, on rembourse en échec, on rembourse en amertume et en larmes. Et moi, j'ai des gens qui sont dans ma clinique et qui disent, docteur, je suis en faillite. Je me rends compte que j'ai tellement à rembourser que je n'y arriverai jamais. Et finalement, ils vous disent, donnez-moi le médicament, anesthésiez-moi la vie. Comme on l'avait parlé avant de l'anesthésie de vie avec les ordinateurs. Là, c'est des gens qui vous disent très clairement, je voudrais que vous anesthésiez ma vie, donnez-moi des médicaments, du droleptan, du nosinant, du tertian, tous les trucs en. Donnez-moi-en plein, parce que je veux plus penser. Je me rends compte que je n'arriverai jamais à rembourser. Et il n'y a pas longtemps, alors que je racontais cette histoire de la banque du plaisir, j'avais un de mes patients qui est d'origine musulmane, il m'a dit « Je sais que vous avez raison docteur, je sais même comment s'appelle le patron de la banque, c'est le shaitan. » Et je lui dis « Ah, monsieur, j'ai pas le droit de le dire, mais si vous le dites vous, le shaitan, il avait raison. » Ici, on a le droit de le dire aujourd'hui. Alors, maintenant, je veux vous annoncer que Jésus, déjà dans Ésaïe, la mission du Sauveur a été déterminée. Et vois ici dans Luc, au chapitre 4, « Le Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, je me suis permis d'ajouter par les produits, pour proclamer aux prisonniers des dépendances la délivrance et aux aveugles spirituels le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les addictés et pour proclamer une année de grâce et de pardon du Seigneur pour tous, même pour les addicts à la pornographie, les SDF, les junkies, les alcooliques. » C'est Jésus qui définit sa propre mission. Jésus n'est pas venu pour accueillir uniquement des gens bien avec des belles cravates qui descendent de belles voitures noires avec deux pots d'échappement. Vous savez, Jésus, il avait une suite de gens qui le suivaient, qui étaient un tel ramassis de vauriens que les pharisiens ont dit, bah, quand on voit le genre de gars qui suivent ce type, on sait que c'est vraiment un mauvais, quoi. J'aurais bien aimé voir quand même tous ces gens. C'était des va-nu-pieds, des ratés, des illettrés, des gens qui avaient tout raté dans la société juive de l'époque. Ils suivaient Jésus parce que Jésus les aimait, parce que Jésus les acceptait comme ils étaient, parce que Jésus avait un message d'espoir pour eux. Aujourd'hui, Jésus a un message d'espoir pour les gens qui sont attrapés, enchaînés par le piège de Satan, qui est de les rendre accros, esclaves, addicts. Ça, c'est le piège de l'ennemi, mais Jésus a dit, je suis le libérateur, pour guérir, pour proclamer la libération aux prisonniers, la délivrance. Il veut nous délivrer. Alors la question, on se pose, où est-ce qu'on voit la délivrance, nous? Parce que dans l'Église, nous vivons souvent aussi l'enchaînement. Nous vivons les addictions, nous vivons les situations d'échec spirituel dans l'Église. Il a dit, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jésus, c'est la vérité. C'est la vérité faite chair. Je pense que nous devons retourner à l'évangile, c'est-à-dire à nous retourner en disant, Seigneur, je vais te dire la vérité sur moi. J'abandonne mes faux semblants. J'abandonne ma cravate, mon titre de docteur. Je suis juste un être humain, aimé par toi. Sauvé par grâce. Un jour, j'ai été invité à une conférence en Alsace et il y avait un premier orateur qui a pris 3 minutes pour nous dire tous les titres universitaires qu'il avait. Et puis ensuite, il y en a un deuxième qui est venu et qui a dit « Bonjour, je m'appelle Antel, je suis un pécheur, mais sauvé par grâce. » Je me souviens très bien de lui encore aujourd'hui. Et je suis, comme lui, un pécheur sauvé par grâce. À partir du moment où nous sommes tous conscients que nous sommes tous des pécheurs, mais sauvés par grâce, ça change notre relation les uns avec les autres. On peut commencer à s'asseoir, parfois même à se mettre à genoux, à 2-3, et à prier, et à reconnaître qui nous sommes, à être humbles. Vous savez, une des grandes choses qui tue l'Église aujourd'hui, c'est l'orgueil. L'orgueil spirituel, l'orgueil de la réussite. C'était l'Église de Laodicée. L'Église de Laodicée, elle avait tellement bien réussi, parce qu'elle avait des responsables politiques grecs et romains dans l'Église. Ils avaient certainement un gros budget. Ils étaient ils avaient beaucoup de doctrines. Et Jésus leur dit, vous êtes nus, aveugles et pauvres. Nus, aveugles et pauvres. Parce qu'ils n'avaient pas l'amour, parce qu'ils n'avaient pas la paix, parce qu'ils n'avaient pas la joie, parce qu'ils ne mettaient pas en pratique les œuvres et parce qu'ils n'étaient pas humbles. La première des choses, je crois que nous devons être humbles. Alors la vraie question que nous devons nous poser ce matin dans l'Église, c'est qu'est-ce que nous voulons comme Église? Est-ce que nous voulons une Église musée? Une église musée, c'est des églises un peu mortes, il faut bien le dire, un peu sèches, où vous avez que des gens bien, qui se retrouvent entre eux, et qui se disent « Bonjour, tu vas bien ? Oui, moi ça va bien, merci. Et qu'est-ce que tu mangeras à midi ? Oui, ben nous on aura des haricots, et vous, ben ça sera des lentilles. Salut, au revoir, à dimanche prochain. » Ah, c'est une église parfaite, il n'y a jamais de problème, tout le monde va bien, tout le monde se sent bien, et tout le monde sont des bons chrétiens. Mais c'est une église morte. Parce que on a un vernis de spiritualité. Ou alors, est-ce que nous voulons une église hôpital? Alors là, attention, hein, parce que ça va changer dans les cultes, ça va changer dans l'après-culte. Parce que là, on risque d'avoir des hôpitaux qui vont accueillir des pécheurs blessés par le fameux shaitan. On risque de sentir l'odeur du pu, du sang, l'odeur des odeurs pas très jolies. On risque d'entendre des choses pas jolies. On risque d'être justement utile au maître. Parce que nous accueillons des hommes et des femmes brisés, blessés, touchés par l'ennemi. Et on va dire, vous êtes au bon endroit, parce qu'ici on va prier pour vous, parce qu'ici on vous aime pour qui vous êtes, des êtres humains aimés par Dieu, parce que vous portez une partie de cette image qu'il a mis en vous. Mais si vous voulez une église hôpital, ça va changer l'ambiance. Il y a du bruit, c'est actif 24 heures sur 24, les pasteurs sont souvent, ils ont souvent des nuits agitées, vous voyez, mais les églises hôpital, les églises où on se bat contre l'ennemi, où on lutte avec des hommes et des femmes que Satan a pris au piège de l'addiction. Alors, j'en reviens à ce que j'ai déjà dit, et je vous propose que vous puissiez l'organiser. Il y a déjà des groupes de croissance ici à l'église évangélique internationale de Genève, et c'est magnifique. Moi, j'ai personnellement beaucoup grandi à partir du jour où je me suis retrouvé dans un groupe de 4 personnes, où finalement là, il n'y avait plus de faux-semblants. Le premier a commencé à raconter des histoires sur lui, et quand il a commencé à parler, je me suis dit, mais si lui il dit ça, alors moi j'ai des choses à dire aussi. Et quand ça a été mon tour, il y avait comme un blocage. Et j'ai dit non, il faut que j'en parle, il faut que ça sorte. J'ai dit oui, il faut que vous priez pour moi. Je m'appelle Daniel et je suis un pécheur et j'ai besoin que le Seigneur me libère, j'ai besoin que je sois lavé par le sang du Seigneur Jésus. Et j'ai vécu la libération, j'ai vécu des guérisons, j'ai vu des hommes et des femmes transformés dans ces groupes. Surtout des hommes, parce que c'était un groupe d'hommes. Je vous encourage à vivre cette réalité, de prendre l'habitude de se retrouver avec des hommes ou des femmes et de se confesser mutuellement nos péchés. Et donc ça revient à ce que je disais, d'être humble, parce que là il faut être humble. Parce que là vous enlevez votre cravate, là vous enlevez vos réussites sociales, et vous devenez juste un homme. Parce que, en fait, je vais vous dire une chose, un jour nous serons devant le trône de Dieu, et nous n'emmènerons rien de tout ce que nous avons ici, de toute notre gloire, même énorme, on n'aura rien. Et il y aura un accusateur qui viendra, l'accusateur, et il va dire, Daniel, je le connais, Daniel, oh là là, j'ai une liste comme ça sur lui. Et il aura raison, parce que tout ce qu'il y aura dans sa liste sera vrai. Et là, je ne pourrai rien dire. Mais j'ai un espoir, j'ai la ferme conviction que Jésus viendra et dira stop, stop. Ce que tu dis est peut-être vrai, mais j'ai payé pour cet homme. J'ai payé pour cette femme. Je sais qu'il viendra et qu'il dira, j'ai payé pour lui, laisse-le. Parce que sinon, j'ai aucune chance. Et si Jésus ne venait pas ce jour-là, à ce moment-là précis, je n'ai rien à faire devant vous ce matin, notre foi est vaine, on doit tous rentrer à la maison, puis tant qu'à faire, prenons de la cocaïne jusqu'au bout, puisque la vie est inutile, elle est ridicule, il n'y a rien à espérer. Alors tant qu'à faire, remplissons le réservoir une dernière fois jusqu'au bout. Et finalement, parfois je dis à mes patients, ben, si vous n'avez pas beaucoup de vision sur le futur, effectivement, je ne peux pas complètement rejeter votre vision en disant bah, « tant qu'à faire, je remplis jusqu'au bout, jusqu'à ce que le circuit casse. » Organisons donc des groupes de prière, de redevabilité, des groupes de croissance, vous pouvez les appeler comme vous voulez, efficaces, où des vraies personnes parlent vrai, parlent humblement et demandent au Seigneur de venir les laver à l'intérieur. Vous savez, il n'y a pas une dimension ésotérique dans ce que je demande, ce que je vous propose, c'est simplement biblique. Mais expérimentez-le, mettez Dieu au défi et vous verrez comment dans vos vies les choses changent. Comment des femmes qui viennent et qui disent « ma vie a changé, ma relation avec mon mari a changé, ma relation avec les autres femmes a changé, je m'accepte comme je suis physiquement » parce que elles vivent une libération à l'intérieur d'elles-mêmes. Et c'est pas moi qui le fais. C'est le Seigneur qui le dit. Alors, pour terminer, on a vu le futur que les humanistes se proposent, hein, l'homme-Dieu, avec la connaissance infinie, le bonheur infini et la vie infinie. On a vu que le ticket est probablement assez cher. Mais nous, ici, frères et sœurs en Christ, c'est quoi notre futur à nous? Alors, je ne sais pas comment vous voyez ce lieu ou ces lieux que Dieu prépare pour nous. On n'en parle pas tellement dans la parole, mais ça sera quelque chose de magnifique. Ça sera un lieu éternel. Ça, c'est compliqué à comprendre pour nous qui vivons dans la finitude. Éternel. Il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas besoin de penser demain après-demain, parce que demain après-demain n'aura aucune signification. On aura un temps infini pour jouir de la présence de Dieu et des autres autour de nous. On aura un temps infini. Vous savez, quand j'ai eu 40 ans, je me suis rendu compte, j'avais un rêve dans ma vie, c'était de monter sur le Mont Blanc. Oui, chacun fait les rêves qu'il peut. Et à 40 ans, je me suis rendu compte que je ne monterai jamais sur le Mont Blanc. Ça m'a un peu touché, je me suis dit, c'était mon rêve, je voulais absolument monter sur le Mont Blanc. Et puis, il y a quelques années, je me suis dit, mais c'est pas grave. Parce que quand je serai auprès du Seigneur, il y aura certainement des montagnes encore beaucoup plus belles et encore plus grandes. Et je pourrai certainement monter là-haut avec encore beaucoup plus de bonheur. Et je ferai certainement des tas de choses incroyables, de la plongée sous-marine, je sais pas. On aura un endroit où on aura du plaisir, mais pas comme le monde donne. On aura le bonheur, le vrai bonheur. Ça, c'est notre futur à nous. C'est ce que la parole nous dit. C'est ce que Jésus nous dit. Vous serez avec moi. Et on se réjouira d'être. Vous savez, moi, je suis pas très bon en chant. Et je me dis, mais quand je serai auprès du Seigneur, on va avoir des louanges exceptionnelles. Parfois, déjà, je suis avec dans l'église et j'écoute les gens et je me dis, waouh, déjà, sur cette terre, on a des louanges magnifiques et je suis impressionné. Et je me dis, mais là-haut, ça sera puissance 10, puissance 100. Et on s'en lassera pas. On s'en lassera pas. Ça sera magnifique, des expériences musicales exceptionnelles. Voilà comment je vois ce futur que Dieu nous promet dans sa parole, dont je suis intimement convaincu, sinon je ne serais pas devant vous ce matin. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire que, oui, il y a besoin d'un ticket pour y aller. Et vous avez vu le ticket pour le paradis du monde. J'ai pas tellement envie de l'acheter, d'ailleurs je vais vous dire franchement, j'ai pas les moyens de payer. Mais le prix du ticket pour aller auprès du Seigneur, ce prix du ticket, il a une grande valeur, il a coûté très très cher. Mais la vérité, c'est que ce coût est exorbitant, personne ne peut payer ce ticket. Il y a des gens qui rêvent de pouvoir le payer. Il y a des gens qui font des tas de bonnes œuvres. Vous savez, au Moyen-Âge, il y a des gens qui ont essayé d'aller à Rome sur les genoux en espérant aller payer le ticket pour eux. Mais c'est impossible. Je vais vous dire quelque chose d'incroyable ce matin. Ce ticket est donné gratuitement. C'est pas parce qu'il n'a pas de valeur, il a coûté très cher à celui qui l'a payé. Mais il nous est donné gratuitement. Dieu fait homme qui a accepté de mourir pour payer le prix. Ça, c'est le message central de la parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Dieu fait homme qui a accepté de payer, parce qu'il fallait que ce soit Dieu lui-même qui meure, qui souffre, pour payer ce prix exorbitant. Mes amis, mes frères et sœurs, nous qui avons cet espoir, cette certitude, sachons être reconnaissants à celui qui a payé le prix du ticket. Car il est dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. Et c'est dans cet espoir, dans cette certitude, que je vous bénis dans le nom de Jésus ce matin. Amen.